Il souffrit en sachant que sur la croix, le Père devait l'abandonner et il trouva cette coupe la séparation d'avec le Père si indésirable qu'il voulut qu'elle lui fût enlevée. Tu connaîtras aussi cette même expérience. En un certain sens, tu pourras ainsi compléter ce qui manque aux souffrances de Christ. Troisièmement, pendant ce temps d'attente, Dieu te révélera des choses qu'il ne te permettra de partager avec personne d'autre. S'il te révèle ses besoins personnels, il arrivera souvent qu'il te refuse de les partager avec quelqu'un d'autre. Il peut te donner un joug, un fardeau à porter pour lui, fardeau qu'il serait plus facile de porter si tu en parlais à quelqu'un d'autre, mais qu'il ne te permettra pas de partager. Il peut encore te faire prendre un chemin qui te conduira à être mal compris par plusieurs personnes que tu aimes, en sachant que si tu pouvais donner des explications, tu serais compris, apprécié et même admiré. Mais, parce qu'il l'exige, tu garderas le silence. Tu seras méprisé pour cela et même pris pour un rétrograde. Es-tu prêt à porter ces page 45 fardeaux, les fardeaux de Dieu, sans être aidé? Es-tu prêt à être mal compris par l'homme? Si tu l'es, dis à Dieu que tu es prêt. Il pèsera ton cœur pour voir si ton cœur est en parfaite harmonie avec tes paroles. Si c'est le cas, il te fera entrer dans cette intimité spéciale et tu seras béni. Un Dieu qui attend un peuple, qui l'attend, la Bible dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30, 18. Le grand Dieu Tout-Puissant est prêt à nous attendre afin d'user de grâce envers nous. Que c'est merveilleux! En retour, il désire que les hommes s'attendent à lui. Lorsqu'un Dieu qui attend rencontre un peuple qui attend, de très grandes choses se produisent. Puissions-nous faire partie de ce peuple, toi et moi. Nous recevrons alors sûrement de sa main la compassion. Gloire à son nom. Un débutant à l'école de l'attente, l'école de l'attente est l'une des écoles importantes de la vie de prière. Les matières n'y sont pas facilement maîtrisées et la connaissance théorique est très peu utile. Je voudrais néanmoins t'encourager à t'y inscrire. Même si tu ne sais pas comment faire, dis au Seigneur Tout-Puissant que tu veux apprendre à t'attendre à lui, que tu veux réellement grandir et devenir un saint, qui prie et qui s'attend à lui. Le Seigneur te répondra aussitôt, mais il ne te donnera pas une trop grande aptitude à attendre devant lui, car tu ne saurais pas t'en servir. Il t'enseignera à y parvenir petit à petit. Parfois, tu auras l'impression de progresser si lentement que tu te demanderas même si tu apprends quelque chose. Néanmoins, n'abandonne pas. Tu es à l'école, à son école. Il est ton maître. Il ne t'abandonnera jamais. Il a déjà enseigné beaucoup de ses élèves qui ont fait beaucoup de progrès. Il ne permettra pas que tu sois l'exception. Attends-toi à lui pendant qu'il t'enseigne. Fais-lui confiance pour t'enseigner et alors, lentement mais sûrement, tu feras des progrès avec Dieu dans cette école. Très cher ami, je prie pour toi au moment où tu t'y engages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende capable. Page 46, chapitre 5. L'art spirituel de la prière, les besoins personnels du croyant, l'engagement de Dieu. Il est à présent évident que la prière ne satisfait le cœur de Dieu que si elle est faite selon les volontés de Dieu et pour la gloire de Dieu. Aucun autre motif n'est accepté par le Seigneur qui exauce la prière. Une question importante se pose alors: Dieu, peut-il manquer d'exaucer une prière faite selon sa volonté parfaite? La réponse inéluctable est non. Absolument non. Le Seigneur s'est engagé à exaucer la prière. La terre gouverne le ciel. Le Seigneur Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. C'est un engagement très sérieux. Cela veut dire qu'il est absolument impossible que nous puissions lier sur la terre, en accord avec la volonté de Dieu et pour la seule gloire de Dieu, sans que cela ne produise aucun effet. S'il devait alors y avoir un échec, la parole de Dieu se révélerait fausse, Dieu se révélerait comme menteur, et le principe qui tient tout l'univers s'écroulerait. Mais Dieu est même allé plus loin que cela. Il a dit que tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Il n'a absolument pas suggéré qu'il puisse y avoir la possibilité, même très minime, de délier quelque chose sur la terre sans que rien ne se passe. Nous pouvons être absolument certains que tout ce que nous lions sur terre sera lié, si nous remplissons les conditions posées par Dieu. Que tous ceux qui lisent ceci gardent à l'esprit que la parole de Dieu dit tout. Cela inclut toutes choses, sans aucune exception. Page 47. Je suis tout à fait étonné par cet engagement de Dieu. Il a décidé dans sa souveraineté que les décrets du ciel attendent que, sur la terre, nous nous engagions à l'action correspondante. Tant que nous n'accomplirons pas promptement cette action sur la terre, le ciel restera inactif pendant un temps? Que l'Église se garde de permettre qu'un tel engagement soit pris en vain. Lorsque la terre, l'Église, tarde à passer à l'action, le ciel attend. La puissance de l'Église, le Seigneur Jésus, dit plus loin, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de Matthieu 18:19-20. Il s'agit là d'un engagement encore plus profond de la part du Seigneur? C'est un engagement envers ceux qui sont assemblés au nom du Seigneur? Ce n'est pas un engagement envers n'importe quel rassemblement d'individus. Ceux qui sont concernés, ici, sont ceux qui ne se rassemblent pas selon les volontés de l'homme ou selon les volontés de la chair, mais qui sont assemblés, regroupés par le Seigneur. Il s'agit de l'Église, car l'Église n'est pas une simple compagnie de n'importe quel croyant rassemblé selon des fantaisies, des caprices, des traditions ou des doctrines. L'Église est un peuple d'adorateurs de Christ rassemblés par le Saint-Esprit. Il les rapproche les uns des autres et demeure au milieu d'eux. Il est tellement présent que, lorsque ceux-ci se rassemblent, il est aussi celui qui prend l'initiative de toutes leurs demandes qui sont par conséquent en accord avec la volonté du Père. Nous voyons ainsi pourquoi Dieu peut s'engager si profondément. Le Saint-Esprit rassemble les disciples. Il les met en accord les uns avec les autres. Il demeure pleinement au milieu d'eux. Il leur révèle la volonté du Père. Il les conduit à transformer cette volonté en requête de prière et présente avec eux ses requêtes au Père. Le Père agit exactement comme ils l'ont demandé. Nous voyons que c'est cela la véritable prière. Les requêtes ont eu leur origine dans la volonté de Dieu. Dieu en a été l'initiateur. Il a confié ses pensées à l'Église à travers Christ. L'Église, dans la puissance du Saint-Esprit, présente à Dieu sa propre volonté sous forme de requête. Page 48. Et Dieu, d'une façon infaillible, exauce ses requêtes. Que pourrait-il faire d'autre? La puissance du croyant individuel, verset après verset, dans sa parole, Dieu s'engage auprès de chaque croyant individuel à exaucer toutes leurs prières, qui ont leur origine et leur fin en lui. Le Seigneur Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils Jean 14:13. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai Jean 14:14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne Jean 15:16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom Jean 16:23. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, Jean 16:24. Demandez et l'on vous donnera Matthieu 7:7. Quiconque demande reçoit Matthieu 7:8. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez Matthieu 21:22. Demandez et l'on vous donnera Luc 11:9. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, Marc 11:24. Ce que désirent les justes leur est accordé, Proverbe 10:24. Je suis personnellement surpris par la fréquence du mot demander. Dieu veut que les hommes demandent. Le fait de demander montre que nous avons confiance en lui. Le fait de demander traduit aussi l'humilité. Si l'on ne demande pas, c'est que l'on est soit trop insensé, soit trop orgueilleux, ou les deux à la fois. Plusieurs, au lieu de demander, se contentent de souhaiter. Cependant, la Bible ne dit pas souhaiter, elle dit demander. D'autres, au lieu de demander, espèrent, mais la Bible ne dit pas espérer, elle dit demander. Certains, au lieu de demander, pensent. Ils se contentent de penser à une chose, puis à une autre, et ainsi de suite. Mais le fait de penser ne remplace pas le fait de demander. Certains, au lieu de demander, se proposent de... Page 49. Demander. mais jamais ils ne prennent la peine de demander et ainsi, ils ne reçoivent jamais rien. Que Dieu conduise tous ses enfants au point où ils demandent, demandent et demandent. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis également surpris par la fréquence du mot « tout » et de ses équivalents. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que nous voulons demander dans la volonté de Dieu. Dieu est fabuleusement et immensément riche. Il est plus riche que nous ne pourrons jamais l'imaginer, que ce soit pour le temps présent ou pour l'éternité. Lorsque nous commencerons à demander conformément à sa volonté et à recevoir de grandes choses de lui, nous ne ferons alors que gratter à la surface d'une mini-limité ? Penses-tu que le tout et le quelque chose de la volonté de Dieu n'existent qu'en petite quantité ou en quantité limitée ? Je te dis non. Non. Il y a une mine à explorer. Dieu a tellement à donner et il a des choses si merveilleuses à donner que sa seule surprise ou mieux encore sa déception vient du fait qu'il y a trop peu d'hommes qui demandent et, dans ce petit nombre, même ceux qui demandent ont peur de beaucoup demander. La parole de Dieu dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2:9. Dieu tient ces choses merveilleuses en réserve. Il les a préparées pour nous, des choses jamais vues auparavant et dont on n'a jamais entendu parler. Elles sont là, attendant d'être reçues par ceux qui les demandent. Ces choses ne sont pas seulement pour l'avenir. Elles sont pour ici et maintenant, car le Seigneur désire réellement nous bénir très richement. La Bible dit car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16:9. Je suis également surpris par les expressions « l'on vous donnera, il vous le donnera, etc. » C'est exactement ce que Dieu pense. Parfois, cela semble trop beau pour être vrai. Mais il en est ainsi. Dieu a vraiment l'intention de faire ce qu'il a promis. Est-ce que tu le crois? Page 50. Les besoins personnels du croyant, parfois, nous semblons dire bien, si je prie pour les âmes, Dieu m'écoutera, mais qu'en est-il de mes besoins personnels? Qu'en est-il de mes besoins de nourriture, de vêtements, de protection pendant les voyages, d'éducation, de santé, de mariage? Dieu s'en occupe-t-il? Va-t-il exaucer? Permettez-moi de vous dire très clairement que Dieu s'intéresse à la totalité de l'homme. Il se soucie des besoins de l'esprit, de l'âme et du corps. Échia pria pour que ses années soient augmentées et Dieu l'exauça. Anne pria pour avoir un fils et Dieu le lui donna. Édras pria pour un heureux voyage et Dieu le lui accorda. Le Seigneur nous a appris à prier et à demander de la nourriture. Il est un Dieu très pratique. Il s'engage totalement. Nous devons lui apporter tous nos besoins et nos désirs. Sa parole dit ce que désirent les justes leur est accordé. Proverbe 10:24. Certaines personnes sont trop spirituelles pour s'engager dans les affaires de la vie quotidienne. Le Seigneur Jésus était engagé, il a nourri les affamés, pleuré avec les affligés, etc. La maturité d'un homme devant Dieu se mesure à la façon dont il est prêt à laisser Dieu pénétrer dans chaque domaine de sa vie. S'il ne peut pas prier, ou s'il ne prie pas pour certains aspects de sa vie, son christianisme doit être considéré comme étant inférieur à la norme. Celui qui est réellement spirituel demandera à Dieu des royaumes, car le Seigneur a dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession. » Psaume 2:8. Il demandera aussi dans la prière « Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin pour le petit déjeuner demain matin. » C'est cela la vraie spiritualité ? Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Psaume 21:3. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37:4. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84:12. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire, page 51, est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Psaume 21:2-7. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui présentent leurs besoins spirituels dans la prière et qui reçoivent de Dieu l'exaucement de toutes sortes de besoins qu'ils exposent. Nous allons brièvement considérer certains de ces besoins. Besoin d'être convaincu de péché, fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Job 13, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23-24. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 26, 2. Nous devons personnellement faire cette prière du plus profond de notre cœur et nous attendre à Dieu afin qu'il nous montre ce qu'il voit en nous, car nos cœurs sont terriblement trompeurs. Si le péché n'est pas éliminé au niveau le plus profond, il nous sera impossible de prévaloir dans la prière? N'est-ce pas notre plus grand besoin personnel? Besoin d'être purifié et pardonné de ses péchés, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Psaume 25, 11. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Psaume 25, 18. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Psaume 39, 9. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, 3-4. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, 9. Ce sont des prières fondamentales dont les conséquences sont d'une grande portée. Moi qui écris ces lignes, j'ai de nombreuses fois fait ces prières, car mon propre péché est grand. Cependant, il concerne des problèmes très personnels qui se posent dans l'intimité de l'homme intérieur. Il s'agit de profondes transactions avec Dieu. Celui qui reste superficiel n'en connaît rien. Page 52. Besoin de connaître les choses divines. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Exode 33, 12-13. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Psaume 25, 4-5. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, 10. Si nous devons faire des progrès à l'école de la prière, il nous faut connaître d'une façon plus profonde le Seigneur, que nous prions et connaître ses voies d'une manière plus intime et plus claire. Rien ne peut remplacer cette connaissance. Besoin d'un réveil personnel, beaucoup s'engagent avec le Seigneur et, quelque part le long du chemin, perdent le contact personnel avec le Seigneur et sombrent dans une activité routinière. Ces personnes ont besoin d'un réveil. Il faut qu'elles prient pour cela. C'est un besoin personnel. Mon âme est attachée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. Psaume 119, 25. Détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité, fais-moi vivre dans ta voie. Psaume 119, 37. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Psaume 119, 40. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Psaume 85, 5-8. Besoin d'être secouru dans la difficulté et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Psaume 22, 20. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Car je suis malheureux et indigent. Psaume 86, 1. Hâte-toi. Page 53. De m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendaient dans la fosse. Psaume 143, 7. Besoin de guérir de maladies causées par le péché, Éternel. Ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force, guérisse-moi Éternel. Car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi Éternel. Jusqu'à quand? Psaume 6, 2-4. Éternel, Ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches ont pénétré en moi et ta main est descendue sur moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair à cause de ton indignation, point de paix dans mes os à cause de mon péché. Psaume 38, 1-3. Besoin de réussir dans nos entreprises, Jéhovah invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, Chronique 4, 10. « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. » Affermis l'ouvrage de nos mains, Psaume 90, 16-17. Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité, Psaume 118, 25. A. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme Néhémie 1, 11. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi née. 2, 8. Besoin de faveur dans la vieillesse, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, ne m'abandonne pas quand ma force est consumée. Psaume 71, 9. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. Et aussi jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, ô Dieu. Ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'annonce ton bras à cette gênée. Page 54. Ration, ta puissance à tous ceux qui viendront. Psaume 71, 1718. Nous devons d'abord nous mettre en règle avec Dieu. Puis nous pouvons lui demander tout ce que nous voulons. Une jeune femme était venue à moi pour savoir si elle pouvait demander à Dieu de bénir ses cheveux pour qu'ils puissent pousser davantage. Je lui ai répondu que Dieu voulait que ses cheveux soient pour sa gloire et qu'elle devait donc demander au Seigneur de faire pousser ses cheveux. Elle le fit et Dieu l'exauça. Une autre avait demandé au Seigneur de la rendre plus attrayante. Le Seigneur l'exauça en faisant disparaître les boutons qui la déparaient. Elle est à présent réellement attrayante. Certaines personnes ont demandé que leur intelligence augmente et ils ont reçu une capacité de comprendre les sciences et les lettres plus grandes que leur capacité naturelle. La liste est inépuisable. Quand tu pries, tu viens devant le roi. Demande de grandes choses, mais présente lui aussi tout ce qui peut te préoccuper. Rien n'est trop petit pour lui. Rien n'est trop grand en comparaison de ce qu'il a en réserve. Il est tout en tous. Gloire à son saint nom. Le nom de Jésus, le Seigneur Jésus, ne nous a pas enseigné à prier en nous adressant à lui. Il a enseigné que la prière devait être adressée à Dieu le Père en son nom Jésus. Cessons de prier le Seigneur Jésus, mais prions Dieu le Père au nom de Jésus. Jésus dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ainsi, nous prions le Père au nom de Jésus, et le Père demande à Jésus de faire ce que nous voulons. Que se passe-t-il quand on invoque le nom de Jésus? Pourquoi le Père s'est-il engagé lui-même à exaucer la prière faite au nom de son Fils? Les raisons suivantes me viennent immédiatement à l'esprit. Le nom de Jésus signifie que nous avons accès auprès du Père grâce au mérite de Jésus. Tu peux t'approcher de Dieu parce que Jésus a enlevé la barrière du péché. Tu entres dans la présence de Dieu, non grâce à tes mérites personnels, mais parce que Jésus est parfaitement digne. Tu peux être indigne, mais tu te présentes au nom de celui qui est parfaitement digne. Grâce à Page 55 Christ, tu dois t'approcher du Père avec hardiesse. Ne laisse pas le diable te dire que tu n'es pas digne. Viens, Jésus dit tu es digne. Bais le nom de Jésus par le d'autorité. Cette autorité est avant tout une autorité devant Dieu. Jésus est le Fils du Dieu très haut. Dieu ne peut pas refuser d'exaucer une requête faite au nom de son Fils. Demander au nom de Jésus signifie que la prière est faite avec des arguments que le Père ne peut refuser. Le nom de Jésus signifie aussi que nous avons autorité devant le malin. Jésus l'a vaincu. Il sait que, devant Jésus, il n'a absolument aucune autorité. Demander au nom de Jésus revient à demander en invoquant une autorité qui anéantit Satan et le dépouille de sa puissance. Le diable le sait, il a peur et il tremble. C'est prier au nom de Jésus signifie que notre demande aurait été faite par Jésus s'il avait été à notre place. Si nous devons prier au nom de Jésus, nous devons nous poser la question suivante : si Jésus-Christ était à ma place, présenterait-il cette requête au Père ? Nous ne pouvons pas utiliser son nom pour demander des choses qu'il n'aurait en aucun cas demandé. Cela ne servira à rien. Son nom et sa personne sont un. Là où sa personne aurait refusé d'être impliquée, son nom ne peut avoir aucune efficacité. Si, malgré tout, nous l'utilisons, nos paroles seront complètement vaines. Des prières au nom de Jésus signifie que la prière est faite pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église et pour la défaite de Satan. Croire, c'est voir la souffrance dans la prière. Croire et recevoir dans le monde naturel, on dit généralement voir, c'est croire. Tu ne crois que quand tu as vu. Cependant, ce n'est pas le cas dans le domaine spirituel. Le Seigneur Jésus a constamment placé la foi avant la vue. Il a dit « si tu peux, tout est possible à celui qui… » Page 56, croit Marc 9, 23. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean 20, 29. L'apôtre Jean a dit « nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée à Jean 5, 14-15. Nous pouvons décrire ainsi les cinq étapes de la prière à avoir confiance dans le Seigneur. Cette confiance est fondamentale. C'est une nécessité absolue dans la prière. La Bible dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » Hébreux 11, 6. Prier sans avoir confiance en Dieu est une grande perte de temps et, pire que cela, c'est se moquer de Dieu. De demander selon sa volonté. 3. Savoir que Dieu écoute. Parfois, nous crions comme si Dieu était mort ou sourd. 4. Savoir que puisqu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous avons obtenu avant d'avoir vu la chose que nous lui avons demandée. 5. Voir ce que nous avons reçu. Dans l'évangile de Marc, le même principe est présenté comme si ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi, de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 22-24. Ici encore, nous remarquons les mêmes étapes. Page 57. 1, 2, 3, 4, 5. Aie confiance en Dieu, ayez foi, en Dieu demande, crois, reçois, avant de voir, vois ce que tu as reçu. Ainsi, le croyant qui prie reçoit par la foi ce qu'il a demandé au Seigneur, avant d'avoir aucune preuve physique de la réponse, par la suite, il voit de ses yeux ce qu'il a reçu sans le voir. En d'autres termes, la personne voit avec des yeux spirituels, reçoit avec des yeux spirituels, et enfin voit avec des yeux physiques ce qu'elle a déjà vu et reçu d'une façon spirituelle. Vue spirituelle et importunité, un problème se pose souvent dans de nombreux cœurs. Comment puis-je concilier cette invitation à demander et à continuer à demander jusqu'à ce que j'ai reçu avec le fait de demander et recevoir avant d'avoir vu? Comment savoir que j'ai reçu par la foi sans voir pour que je cesse de demander? N'y a-t-il pas un danger à cesser de demander si Dieu veut que je l'importune pendant longtemps? Ou est-ce que je ne perds pas mon temps à demander ce que Dieu m'a déjà donné, trahissant ainsi le doute? La solution réside dans le témoignage du Saint-Esprit dans l'esprit de celui qui prie. Fondamentalement, la prière est une communication qui vient de Dieu vers l'esprit de l'homme par le Saint-Esprit et qui revient à Dieu par le Saint-Esprit. Celui qui marche près du Seigneur et dont l'esprit est libéré saura donc dans son esprit que l'exaucement est déjà accordé et qu'il doit cesser de prier. Cette relation personnelle intérieure entre l'esprit du croyant et le Saint-Esprit est indispensable pour une prière profonde. Dans cette relation entre le Saint-Esprit et l'Esprit du croyant, on saura s'il faut demander une chose une fois, deux fois ou mille fois. On ne regardera pas aux choses visibles pour savoir quand il faut cesser de prier. On recevra du Saint-Esprit la révélation que la prière a été exaucée et que l'on n'a plus besoin de demander. Tout ceci rend indispensable une communion vitale avec le. Page 58. Seigneur, car seuls ceux qui marchent tout près de lui grandissent à l'école de la révélation. La parole de Dieu, le Seigneur, a fait de nombreuses promesses dans sa parole. Ces promesses doivent être réclamées dans la prière et vécues concrètement par le croyant. La parole de Dieu est infaillible. Le psalmiste dit toujours, « Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. L'apôtre Pierre dit « La parole du Seigneur demeure éternellement ». 1 Pierre 1, 25. Le Seigneur lui-même a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu 24, 35. Puisque la parole est ainsi infaillible et invariable, comment se peut-il que certains croyants réclament des promesses faites dans la parole sans que leurs demandes soient accordées? La première chose à dire ici est que la faute ne peut pas provenir de Dieu ni de sa parole. Sa parole et lui sont parfaitement infaillibles. Le problème doit donc provenir du croyant. Dans la Bible, nous trouvons des promesses que Dieu fait à quiconque d'une manière générale. Qui est quiconque? Dans le sens de la Bible, quiconque est celui qui satisfait aux exigences de Dieu. Les promesses sont pour ceux qui sont prêts à marcher tout près de Dieu, à connaître Dieu et à demander dans le même esprit que celui qui a promis l'exaucement. Si une personne sans aucun contact avec Dieu se mettait à réclamer une promesse, tout simplement parce qu'elle est donnée dans la Bible, il serait alors nécessaire que cette promesse ne soit pas exaucée, sinon Dieu deviendrait alors le promoteur de l'injustice. Il faut que la parole de Dieu devienne la parole vivante de Dieu, appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans une situation donnée, par exemple devant un homme malade et mourant, j'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur me dire « J'ai promis que ceux qui croiraient en moi imposeront les mains aux malades et qu'ils seront guéris ». La personne qui est devant toi se trouve dans cette situation. Je vais la guérir pendant que tu lui imposeras les mains en mon nom. Il s'agit là d'une parole personnelle, révélée par le Seigneur et fondée sur la parole écrite infaillible. Nul ne, page 59, peut se tromper en suivant cette voie. En revanche, si nous vivons au hasard et si nous nous mettons à imposer les mains au hasard pour que les malades soient guéris, nous découvrirons souvent que les promesses faites dans la parole n'ont aucun effet. Combien de gens ont imposé les mains à un malade au nom du Seigneur Jésus sans que rien ne se passe? Nous lisons beaucoup de témoignages de guérisons accomplies par de grands évangélistes, mais regardons aux faits. Un homme prie pour 1000 malades. 4 sont guéris et tous les autres restent malades. Que s'est-il passé? Cela doit signifier que 4 malades seulement étaient destinés par le Seigneur à être touchés et guéris. Si l'évangéliste avait attendu d'avoir une révélation personnelle du Seigneur, il n'aurait imposé les mains qu'à ces 4 personnes. Il faut d'abord que le Saint-Esprit révèle à nos cœurs que les promesses invariables de la parole de Dieu s'accompliront afin qu'elles deviennent des promesses effectives et que Dieu s'engage concrètement et individuellement à nous exaucer. Ensuite, nous pourrons agir dans la pleine assurance qu'il fera ce qu'il a promis. Cette connaissance révélée va mettre en valeur la réalité de la parole vécue par le croyant. Cela fera de la prière ce que Dieu a voulu qu'elle soit, une relation intime entre lui et ses enfants. Que le Seigneur nous conduise dans cette connaissance. Page 60, chapitre 6. L'art spirituel de la prière, les limitations de Dieu. La main de Dieu raccourcit. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Esaïe 59, 1-2. La main de Dieu ne sera jamais trop courte. Dieu ne changera jamais sa position parce que les hommes préfèrent pécher. Cependant, il est évident que le péché d'un croyant causera une séparation entre Dieu et lui et cachera au croyant la face de Dieu. Cela signifie que la prière d'une telle personne ne sera pas exaucée. La prière rebondissante, la prière faite par des cœurs injustes, rebondira sur l'injustice et reviendra à ceux qui prient dans une telle condition de cœur. La prière de l'injuste ne sera pas écoutée par le Seigneur et ne sera pas exaucée. La Bible dit alors les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortir à votre rencontre et vous poursuivir comme font les abeilles, ils vous bâtiront Séir jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. De Deutéronome 44-45. Moïse pria après avoir péché, mais sa prière ne fut point exaucée. Lui-même l'exprima ainsi: en ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel, en disant: Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. De Deutéronome 3, 23-25. C'était une bonne prière, mais, à ce moment-là, Moïse avait perdu la faveur de Dieu. Il avait, page 61, péché. Il continua donc en disant, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il ne m'écouta point. » L'Éternel me dit c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Deutéronome 3, 26. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. 2 Samuel 22, 42. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Job 27, 8 et 9. La réponse évidente est non. Dieu n'entendra pas son cri. Il crie, et personne pour les sauver, il crie à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Psaume 18, 42. Le livre des Proverbes dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends mes mains, et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. » Proverbe 1, 24-28. L'Éternel me dit « Il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. » Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Jérémie 11, 9-11. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu de Osée 5, 4-6. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas, il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Michée 3, 4. Page 62. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Zacharie 7, 12-13. L'esprit du monde vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jacques 4-34. Demandez à Dieu des choses pour que nous puissions être comme les gens du monde, pour nous comparer à eux, pour gagner leur faveur, etc. Cela revient à rechercher la défaveur de Dieu. L'amitié se développe quand on la cultive soigneusement. Nous pouvons cultiver l'amitié de Dieu ou l'amitié du monde. Dans tous les cas, cette recherche commence dans le cœur, par un désir. Si nous gardons le moindre désir d'être mondains, cela suffit pour nous priver de la faveur de Dieu et pour nous faire manquer les conditions qui permettent à nos prières d'être exaucées. Si c'est notre cas, il nous faut régler ce problème avant de prier. Jacques prescrit ce qui suit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4, 7-10. Le remède contre l'esprit du monde n'est pas constitué par des actes superficiels externes tels que se débarrasser de certaines choses. Le remède se trouve dans la purification du cœur. Il faut qu'il y ait une œuvre profonde. Cette œuvre ne peut être accomplie que par le Saint-Esprit dans des cœurs qui ont compris que l'esprit du monde est l'un des péchés les plus dangereux et qui sont prêts à payer le prix de la chirurgie radicale nécessaire pour se débarrasser de cet esprit. Page 63. Le manque de miséricorde, la Bible dit: celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Ésaïe 58, 5-9. Voici la réalité, si nous ne prenons pas soin des besoins des autres, si nous n'entendons pas leurs cris, si nous refusons d'être utilisés par Dieu pour satisfaire leurs besoins, alors Dieu nous rétribuera en conséquence. Ce n'est que justice. Le Seigneur insiste toujours sur ce point. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » Marc 11, 24-25. Voici la conséquence logique de ces paroles. Dieu n'écoutera que les prières de ceux qui sont purifiés. Un esprit qui manque de pardon éloigne Dieu immédiatement. Ce n'est pas la quantité de prières qui changera la situation, puisque ces prières ne seront pas entendues. Une seule chose est alors nécessaire, pardonner à celui contre qui l'on a quelque chose. Puisque la prière est une sorte de sacrifice, c'est souvent un sacrifice de louange, la Bible dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23-24. Page 64. La prière, un fardeau pour Dieu, la Bible dit si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, 9. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination pour Dieu.